Et j'aimerais bien que ce soit, si c'est possible, des questions reliées au sujet du cours. Et des choses que, par exemple, si j'ai dit quelque chose qui n'était pas clair ou que ça a mis de la confusion dans votre esprit, vous avez besoin d'une clarification. Alors, ça me ferait bien plaisir d'essayer de clarifier. Tafadhal akhi. Wa alaykoum salam.
Peut-être que vous ne vous rappelez pas de moi, je connais
Oui,
beaucoup de
je me rappelle.
Ah, machallah.
Mais là, le visage, il a changé un peu avec le temps.
Ah, oui. On s'approche d'Allah,
subhanahu wa ta'ala.
Donc, quand j'ai entendu votre discours, je me suis mis dans la peau d'un jeune qui n'a pas beaucoup de connaissances dans le dîn. Et j'ai peur qu'il sorte avec une idée que l'Ash'ariyya et le Maturidiyya sont des courants égarés. Alors qu'ils étaient depuis des siècles et des siècles faisant partie de la sunna ou la jama'a. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit: Nahnu la na'lamu ahadan min ahli al-ilm, ahli sunna, nasab al-asha'ira wa al-maturidiyya ila al-khuruj 'an al-din wa al-muruq 'an al-islam. Les exemples, c'est comme il y a de l'amalgame dans les exemples. Vous prenez les exemples des gens très égarés. Ensuite, vous les mélangez avec les Asha'ira Maturidiyya. Maturidiyya, l'Asha'ira, faisait tout le temps partie de musulmane sunna. Et il faut aussi mettre en contexte pourquoi il y a des divergences dans l'aqida. Il y a un contexte historique. Comme il y a quatre madhahab dans la jurisprudence, font partie de sunna, le Malikiya, le Hanabila, etc. Il y a trois madhahab aqadi qui appartiennent à sunna. Salafia ou Al-Hadith, Al-Maturidiyya et Al-Asha'ira. Et il faut parler pourquoi ça a existé l'Asha'ira. L'Asha'ira, ça a existé dans un contexte où il y avait beaucoup d'influence de la philosophie, les Grecs, les Romains et Indiennes. Et l'Ash'ari, il a voulu, avec la même logique, défendre le Coran et le Sunnah. Et tout ce que tu as dit sur Sahaba, sur la référence et tout, l'Asha'ira et Al-Maturidiyya disent la même chose. Personne d'entre eux ne dit le contraire. Tout le monde dit la même chose sur Sahaba, sur Mouna Aïcha, sur Sis. L'amalgame qui est fait, peut-être qu'elle va rentrer dans l'esprit de
jeunes. Le sujet. Parce que là, tu fais une conférence, là.
Non.
Donne-nous la question.
La question, il ne faut pas amalgamer les groupes qui sont égarés avec le Maturidiyya et l'Asha'ira. Ça, c'est très important. Et vous les avez même dit que c'est des sectes. La secte, c'est ce que vous présentez. Parce que la secte, celle qui divise l'homme au lieu de la rassembler. La secte, c'est celle qui va montrer aux gens des ulama comme égarés, des fatihins comme égarés. Mohammed al-Fatih, celui qui a ouvert Constantinople, avait aqida maturidiyya. Alors que le Rasoul l'a élogé. Il a dit ni'mal jayshu jayshuhu, wa ni'mal amiru amiruha. Salah al-Din al-Ayyubi était Ash'ari. Et si tu dis Sophia ne sont pas tous des gens d'enfer. Celui qui a défendu la Libye,
Omar al-Mukhtar. Il ne faut pas
amalgamer.
Est-ce que c'est une question ou un commentaire? Qu'est-ce que tu veux savoir?
C'est un commentaire.
Non, si tu as une question, pose ta question. Sinon,
question,
je vais. Ça, c'est pas une question alors. Parce que à la base, c'était supposé d'être une réponse à une question. Mais là, tu ne poses pas de question.
Oui, je clarifie parce que je me mets dans leur peau. Et c'est grâce que vous présentez.
Ok. Est-ce que tu me permets de répondre?
La même chose.
Est-ce que tu me permets de répondre?
Oui, répondez.
D'accord. Si tu me permets, alors je vais clarifier un petit peu par rapport à ce que tu as donné comme choubouhat. Malheureusement, c'est des choubouhat qu'on appelle ça. Et c'est des paroles qui sont inexactes et incorrectes. Ce que tu dis, c'est incorrect, totalement. Donc, je pense que je vais m'asseoir ailleurs parce qu'ici, il y a une réservation. Ok. J'ai peur que ce commentaire nous fasse faire une deuxième conférence. Ben, en tout cas, ça sera quand même utile parce que ça va nous servir à faire en sorte de clarifier encore plus les choses, puis, comme on dit, ajouter de la lumière à la lumière. Bi'idhnillah. Nourun ala nour. Ok. Premièrement, comme on a expliqué pendant la conférence, la vérité et le groupe de la vérité, il est unique. C'est la voix des Sahaba. J'ai expliqué pendant la conférence que Al-Ash'ari, Al-Rawi, Al-Maturidiyya, eh bien, leur aqida, ce n'était pas la aqida d'Abu Bakr et Omar. Qu'est-ce qu'ils ont ramené? C'était à une époque qui est venue, même après les quatre imams des madahib. D'accord? Donc, pour clarifier un peu, parce que tu dis que j'ai fait un amalgame, puis que j'ai parlé des Ash'ara et des Maturidiyya, et que je les ai mentionnés avec d'autres sectes qui sont plus égarés qu'eux, il faut savoir que c'est vrai qu'il y a des degrés d'égarement parmi les égarements, parmi les groupes et parmi les sectes. Toutes les sectes ne sont pas égarées au même plan et au même niveau et au même degré d'égarement. D'ailleurs, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans un de ses livres, Naqd al-Mantiq, il mentionne les Ash'ari, et d'ailleurs la plupart des livres écrits par Ibn Taymiyyah sont des réfutations des Ash'ari et des Maturidiyya. Il n'a pas réfuté les autres, les Mu'tazila et les Jahmiyyah. Pourquoi? Parce qu'il les a réfutés, mais il a réfuté les Ash'ari comme étant une continuation de ces voies d'égarement-là. D'accord? Donc, quand on parle, tu dis que Ahlus Sunnati wal Jama'a, ça comprend trois groupes. Et tu dis que c'est As-Salafiyoun, qui sont Ahlul Hadith. Après, tu as dit Al-Ash'ariya et Al-Maturidiyya. Et bien ça, Cheikh Ibn Uthaymeen, que tu as mentionné, tu dis qu'il n'y en a personne parmi les musulmans qui les ont attribués à Al-Muruq min ad-Din, Al-Khuruj min ad-Din. Effectivement, on n'a jamais dit qu'ils sont en dehors de l'islam ou qu'ils sont sortis de l'islam. Ce sont des musulmans, sauf que c'est des musulmans qui ont dévié dans la croyance et qui sont sur des bid'a, des innovations. Maintenant, en ce qui concerne les trois groupes que tu as mentionnés, tu dis que ce sont eux qui sont Ahlus Sunnah, il ne suffit pas de se dire ou de se déclarer comme faisant partie d'Ahlus Sunnah pour en faire partie. Pour faire partie d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, eh bien, il faut adhérer à tous les fondements et à tous les principes de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Si tu contredis dans la méthodologie avec un des principes, parmi les principes d'Ahlus Sunnah, eh bien à ce moment-là, tu sors de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et les ulama sont d'accord pour dire que quand tu dis par exemple Ibn Uthaymeen, dans son charh de Aqidat al-Wasitiyya de Ibn Taymiyyah, il a mentionné que certains parmi les savants, quand ils parlent, ils disent qu'il y a trois groupes qui sont compris dans Ahlus Sunnah wal Jama'a, les Salafiyoun et Al-Ash'ariya wal Maturidiyya. Sauf que Cheikh Ibn Uthaymeen, il clarifie par la suite. Et il dit, c'est incorrect de dire ça. Parce que les seuls qui sont réellement sur la aqida d'Ahlus Sunnah wal Jama'a, dans l'Asma al-Sifat, et dans le Qadar, et dans l'Iman, eh bien ce sont les Salafiyoun seulement. Sauf que le problème aussi, une des raisons pourquoi il y a cette ambiguïté ou cette confusion à propos des Ash'ari et des Maturidiyya quand ils mentionnent qu'ils font partie de l'Ahlus Sunnah, c'est parce que beaucoup de gens parmi eux, parmi les savants qui font partie des Ash'ari, ils disent que quand ils parlent des salafs, ils disent leur voix c'est le tafwid. Ils disent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître la signification des noms d'Allah. Et on ne dit pas que quoi que ce soit à propos de ces noms-là ou de ces attributs. C'est seulement Allah qui sait qu'est-ce que ces attributs-là signifient. Et ils disent de remettre le sens des attributs à Allah et de dire c'est seulement Allah qui sait la signification de ces attributs-là. Ils disent ça, c'est la aqida des salafs. Et il dit, et les Maturidiyya et les Ash'ari, eux sont les Khalaf, et leur voie, c'est de faire le Ta'wil ou de faire le Tahrif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils appellent le fait de dire, par exemple, comme c'est mentionné dans Jawharat al-Tawhid, Il dit وكل نص أوهم تشبيها فأوله أو فوض ورم تنزيها. Donc tu soit ils disent tu fais le ta'wil ou le tafwid. Hein? Puis mais le tahrif c'est le ta'wil en réalité, le ta'wil des asha'ira, c'est le tahrif des attributs. Pourquoi? Parce que ils interprètent l'attribut par quelque chose qui n'a aucune référence ni dans la langue arabe, ni dans l'interprétation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des salafs, ni des salafs. Par exemple, si tu leur demandes à propos de Al-Istiwa, qu'est-ce que ça signifie Al-Istiwa? Ils vont dire, Al-Istiwa, ça veut dire Al-Istila, Istawla, ça ne veut pas dire Istawa. Et Istawa, Istawla, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire conquérir. Donc, eux, ils disent Al-Haymana wal يعني والسيطرة وكذا هذا تأويل باطل parce que ça n'a pas du tout cette signification là dans la langue arabe classique. Les ulama des salaf ont dit que معنى الاستواء على وارتفع وصعد, c'est ça la signification, et tu le retrouves dans Sahih al-Bukhari, et il le rapporte de l'explication des salaf dans Kitab al-Tawhid. Tandis que quand tu dis al-istila, ça veut dire le fait de conquérir, ça implique des choses beaucoup plus dangereuses et beaucoup plus graves. Ça impliquerait que quelqu'un avait le trône d'Allah, puis Allah est venu, il l'a conquéri, puis il a repris le trône. Et on sait très bien que Allah n'a pas de rivaux, il n'a pas d'égal, et donc personne ne peut posséder son trône. Donc pourquoi l'aurait-il conquéri? Non seulement ça, mais ça voudrait dire également que tous les versets ou toutes les utilisations ou les emplois du verbe istawa dans le Coran devraient aussi être utilisés et interprétés dans le sens de al-istila. Comme par exemple, quand Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Az-Zukhruf, لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Donc là, il dit, lorsque tu montes sur ta monture, hein, tu te rappelles de la grâce d'Allah. Lorsque tu montes dessus et tu dis, سبحان الذي سخر لنا, gloire à celui qui nous a assujetti cela. Alors, est-ce que ici tu vas dire que ça signifie استولى encore une fois? Bien sûr que non, puisque ce n'est pas ça la signification dans la langue arabe et que ça ne fait aucun sens de dire ça, de conquérir le dos du chameau, hein, ou le dos de la monture, ça ne fait aucun sens. Et c'est pourquoi les ulama d'Ahl-Sunna ont dit les interprétations des Asha'ira et des Maturidiya à propos des attributs d'Allah sont des formes de falsification et de déformation des sens des attributs, et non pas des ta'wil. Parce que le mot ta'wil, dans le Coran, il a deux sens. Le mot ta'wil dans le sens du mot tafsir, comme c'est connu à l'époque des salafs, et le mot ta'wil dans le sens de ma ya'oulu ilayhi al-amr, ma ya'oulu ilayhi shay, wa haqiqatu shay. Et ces deux significations-là, on le retrouve par exemple dans Surat Yusuf, ذَلِكَ تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ, hein? Et à la fin, quand ses parents viennent, son père vient avec ses frères et qu'il se prosterne et il dit ذَلِكَ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَايَ, il dit ça c'est la réalisation de la vision que j'avais eue. Donc le mot ta'wil ici il est employé dans le sens de la réalisation d'une chose ou de la concrétisation d'une chose. Et dans la parole des salafs, comme l'imam al-Tabari dans son tafsir, lorsqu'il parle de la signification ou de l'interprétation d'un verset, il dit وَتَأْوِيلُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْآيَةِ كَذَا وَكَذَا, et il mentionne la signification. Donc il y a une grande différence entre le tafsir et le ta'wil. Tandis que chez les khalafs, le mot ta'wil, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie إخراج معنى النص عن المعنى الظاهر إلى المعنى المحتمل أو كذا أو كما يقولون يعني. Donc, c'est pour dire, ils font sortir le mot de son sens apparent vers un autre sens quelconque. Et les ulama ont dit que ça, c'est permis de le faire, mais à condition que tu as une preuve, une référence ou un indice qui justifie, hein, qui justifie cette interprétation-là, de prendre le mot ou l'attribut en dehors de son sens apparent. Et bien entendu, pour ce qui est de la plupart des attributs d'Allah Azzawajal, il n'y a pas de raison de faire ce genre de déformation-là. D'accord? Donc, les ulama d'Ahl al-Sunnah, ils n'ont jamais considéré la aqidah d'Abu al-Hassan al-Ash'ari comme étant la aqidah d'Ahl al-Sunnah. Sauf qu'il faut savoir une chose à propos d'Abu al-Hassan al-Ash'ari, c'est que quand il est né en 260 de la Hijra, donc après la mort des quatre imams d'Ahl al-Sunnah, il a vécu 40 ans dans la secte des Mu'tazila. Et le père le mari de sa mère, qui n'était pas son père, le mari de sa mère, c'est-à-dire s'était remarié, et c'était Al-Jubai, c'était la tête des Mu'tazila de son époque. Il a grandi avec lui. Pendant 40 ans, il était sur la aqidah des Mu'tazila. Et la aqidah des Mu'tazila, c'est de nier les noms, de nier les attributs d'Allah et de ne pas accepter la signification des noms. Hein? Ils disent que les Asma Allah, Asma Jamida. Yani, la yu'mal minha sifat, ou la yu'khad minha sifat ou ma'ani. Allah al-Musta'an. Donc lui, il a grandi dans cet environnement-là pendant 40 ans, il était dans l'égarement. Tu dis que c'était à cause de son contexte qu'il a voulu utiliser le langage des philosophes pour essayer de les réfuter. C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Parce que lorsque tu réfutes des gens qui sont sur le faux, tu les réfutes, peut-être que tu peux utiliser les terminologies qu'ils utilisent dans le but de leur faire comprendre tes arguments, mais pas d'utiliser leur raisonnement et leur méthodologie pour essayer de justifier ta croyance islamique. Parce que si tu essaies d'utiliser leurs fondements et leurs principes pour essayer de défendre l'islam, tu vas tomber sans aucun doute dans des contradictions. Et malheureusement, c'est exactement ce qui est arrivé. D'ailleurs, l'élément le plus important pour les Asha'ira dans la Aqidah, hein, et la chose qu'ils cherchent le plus à affirmer et à établir, c'est pas yani, le Tawhid tel qu'on le connaît, qui est le Tawhid al-Mursalin, Tawhid des Anbiya, des prophètes, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Non. Qu'est-ce qu'ils essaient le plus d'affirmer, c'est l'existence de Dieu, en se basant sur des preuves philosophiques et soi-disant rationnelles. Or, les ulama d'Ahl al-Sunnah ont dit que l'existence de Dieu ne nécessite pas de preuves en elle-même puisque c'est quelque chose qui fait partie de la fitra de l'homme. Et par conséquent, tous les êtres humains la reconnaissent au fond d'eux-mêmes, même s'ils la nient par leur langue. Et il y a beaucoup d'exemples de ça dans le Coran. D'accord? Donc, sur la question du tawhid, ils ne reconnaissent que tawhid, hein, tawhid al-rububiyya en réalité. Tawhid al-rububiyya, an Allah huwa al-khaliq, al-raziq, al-mudabbir, al-muhyi, al-mumit. Et ça s'arrête à ça. Maintenant, en ce qui concerne tawhid al-ibada, ils ne le reconnaissent pas. Et la preuve, c'est que dans la plupart des pays où les Asha'ira sont en majorité, on retrouve l'adoration des tombes, le culte des saints et plein d'autres innovations de ce genre. Et ils ne considèrent pas ça comme faisant partie du shirk. Donc pour eux, ça ne fait pas partie de ce qui contredit le tawhid pour eux. Et en ce qui concerne l'asma ou sifat, eh bien, ils nient la plupart des attributs ou ils les déforment de leur sens et ils n'affirment que 7 attributs. Et si tu lis les livres des Asha'ira, ils n'acceptent que les sab'a sifat qui sont connus dans ce qu'ils affirment. Et ces 6 attributs-là, on se demande, s'ils les affirment, qu'est-ce qui les empêche d'affirmer les autres? D'ailleurs, les Mu'tazila les ont réfutés sur ce principe-là aussi. Même les Mu'tazila qu'eux ont essayé de réfuter, eh bien, à la fin, ils sont revenus à la même croyance que les Mu'tazila, finalement. Parce que quand tu regardes, tu dis, vous dites que Allah, il est Samir et qu'il est Basir. Pourquoi vous ne dites pas qu'il est Mustawin ala l'Arsh? Ils ont dit, non, on dit qu'il est Samir et Basir. Alors les Mu'tazila ont dit, vous dites qu'il est Sami' et Basir, et nous aussi on est Sami' et Basir, les êtres humains, et les animaux aussi sont Sami' et sont Basir aussi. Donc ça c'est un tashbih. Vous faites ressembler Allah à sa création, parce que vous dites que Allah, il est Sami' Basir, et vous dites que les animaux, ils sont Sami' et Basir, et vous dites que nous, les êtres humains aussi, on est Sami' et Basir. Donc vous faites le tashbih. Et les Asha'ira ont dit non, parce que Sam'Allah, laysa ka Sam'ina, wa Basarullah, laysa ka Basarillah. Et bien nous, on dit aussi la même chose à propos des autres attributs aussi. Istiwa Allah, laysa ka istiwa, istiwa'ina. استواء يليق بجلاله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. D'accord? Donc, comment je pourrais dire? Il y a plein de paroles des salafs qui prouvent et qui confirment que les Asha'ira et les Maturidiyah ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Les Khawarij, on ne dit pas qu'ils font partie de Ahl Sunnah wal Jama'ah. Pourquoi? Parce qu'ils font le takfir des gens qui font des péchés. Et pourtant, ils ont contredit dans cet élément-là en particulier. Est-ce que c'est nécessaire pour que quelqu'un soit en dehors de Ahl Sunnah qu'il dévie dans tous les principes de l'islam? Ou s'il dévie dans un des principes de l'islam, ça suffit pour dire qu'il est dans une secte? Parce que tu as dit que la secte, c'est celui qui divise les musulmans. La division, elle est déjà là. On ne la crée pas. On ne fait que l'expliquer et la confirmer. Ce n'est pas nous qui avons créé la secte des Shia et des Rafida et des Khawarij et des Asha'ira et des Maturidi. On ne les a pas inventées. Elles existent. On ne fait que les clarifier aux gens pour que les musulmans, les jeunes, que vous dites qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Oui, ils sont capables de comprendre. Mais vous avez peur qu'ils comprennent la réalité des choses. Alors ça vous dérange qu'on leur explique et qu'on leur clarifie les choses. L'intention, c'est Allah qui la connaît. Mais moi, je juste selon ce que j'ai entendu, parce que là, j'ai entendu un plaidoyer pour défendre la croyance des Asha'ira et des Maturidiyah. Et vous me dites que Salah al-Din, il était Ash'ari, et que qui d'autre, Mohamed al-Fatih était Ash'ari, et qu'il était Maturidi. Peu importe. C'est pas ça qui détermine que sa aqida, c'est telle qu'on doit suivre. Qu'est-ce qu'on doit suivre? C'est ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Et le prophète sallam, il dit Inna Allah la yansuru hadha ad-din bir-rajul al-fajir. Allah va donner la victoire à cette religion par l'homme qui est pervers. Donc le fait que quelqu'un défende la religion de l'islam, même s'il a des déviations ou des innovations, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. On ne dit pas que les Asha'ira sont des koufars. On dit seulement qu'ils sont des innovateurs et qu'ils ont dévié dans les questions des croyances et tout. Oui, tafadhal.
Non. Moi, si tu n'as pas un commentaire, après, non. Ça va être juste une question.
D'accord.
Donc, ma question, donc, sans préjugé, mais la discuter après ça, vous jugez.
Non.
Donc, est-ce que on peut pratiquer notre religion sans être étiqueté, sans suivre un mouvement ou un courant religieux? Je viens ici pour la prière. Je viens pour collecter le hasanat, mais je ne veux pas collecter le CIR en pointant du doigt, lui c'est Salafi, lui c'est Maturidi, lui c'est Ash'ari, lui c'est Mu'tazila, lui c'est Ikhwani, etc. Donc, ce qui nous rassemble aujourd'hui ici, dans la mosquée ici, ou dans Norain ou d'autres mosquées, c'est de prier. Ce qui nous rassemble à la Mecque, le Hajj, comme pratique religieuse. Donc, ma question est ça. Moi je suis le Minhaj Salaf. Minhaj, le Coran ou le Sunna, avec les attributs, tout. Mais je ne veux pas être étiqueté Salafi, Maturidi ou n'importe quel courant religieux. Donc, ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, j'ai beaucoup aimé donc, le fait de parler de la politique aussi dans le Salafiyat. Mais la question que je pose, si par exemple notre leader, notre chef, et par exemple, Mu'tazil, mais qui n'est pas salafi comme nous. Est-ce qu'on doit obéir aveuglement? Moi, je suis contre le désordre dans les rues, les manifestations, etc., etc. Mais est-ce que quand même, on doit obéir aveuglement malgré Nasiha et tout ce que vous avez discuté, vous avez amené? Donc, c'est ça ma deuxième question. Sans avoir une deuxième conférence, une troisième conférence.
Barakallahu fik. On va répondre à ces deux questions-là, puis après ça va terminer, Inch'Allah. Donc la première question par rapport aux étiquettes. Alhamdulillah, à l'époque du prophète Mohammed, il n'y avait aucune autre étiquette que l'étiquette d'être un musulman. Et les gens, ils étaient ensemble, et ils venaient, ils faisaient la salat, et ils priaient, et c'était l'iman, ou l'ukhouwa, ou l'islam, et il n'y avait rien d'autre. Et il n'y avait pas de raison de se mettre des étiquettes en quoi que ce soit, puisqu'il n'y avait rien d'autre que la sunna. Il n'y avait rien d'autre que la salafia. Les étiquettes sont apparues lorsque les bid'as sont apparues. Et lorsque les bid'as sont apparues, eh bien c'est là qu'il y a, il a fallu pour que les savants mettent des étiquettes pour se distinguer des innovations. Et c'est uniquement ça l'explication. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Donc, moi aussi j'aimerais bien que lorsque je viens à la mosquée, on prie et je suis avec tous mes frères et qu'on ne, fait, on ne fasse aucune division, aucune distinction entre personnes. Sauf que s'il y a des gens qui viennent ici qui veulent prêcher quelque chose qui contredit le Coran et la Sunna ou qui commence à essayer d'influencer des frères pour les appeler à une voie qui contredit le Coran et la Sunna, et ça, c'est, ça existe. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit juste rester les bras croisés et laisser les gens de l'innovation égarés et appelés à leurs égarements? Non, c'est notre devoir d'expliquer, de clarifier, de faire connaître aux gens la vérité de la sunna pour que justement il y ait une clarification entre al-haq wa al-batil. C'est tout. Et en ce qui concerne la question de la question par exemple de bon, tu, si tu veux te dire salafi ou tu veux pas te dire salafi, ça c'est un détail en réalité. L'important, ce n'est pas nécessairement de se dire salafi, mais c'est surtout d'être salafi. C'est-à-dire d'accepter les fondements et les principes des salafs et de les suivre. Si tu te dis salafi, tant mieux, alhamdoulilah. Mais respecte les, la voie des salafs et les croyances et les principes des salafs. Ne te dis pas salafi, puis en même temps, tu es sur la voie des khawarij. Ne te dis pas salafi, puis tu es sur la voie des gens de bid'ah. Ça, c'est une contradiction. Mais on le voit parfois. Tu vois, des khawarij qui disent, c'est des takfiriens, ils font takfir des musulmans, puis après ils disent, moi je suis salafi. C'est un kadib. Hein? Ou bien, parfois aussi, il y a une chose, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas se dire salafi parce qu'ils pensent que ça a une connotation négative à cause de ce que les médias ont dit à propos des salafis. Parce que les médias ont intérêt à faire de l'amalgame à propos de la salafia pour essayer de les accuser de toutes sortes de choses. Donc ils vont dire il y a des salafia djihadia, salafia siyasiya, salafia kada wa kada. Non, il y a une seule salafia. Parce que les sahaba n'étaient ni des khawarij, ni des, hein, ni des ikhwan, ni des tablir, ni des soufis, ni des shia. Ils étaient sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait le djihad. Mais ils n'ont pas dévié dans le djihad. Hein? Ils ont fait la politique, mais ils ont fait la politique selon le Coran et la sunna et la sharia d'Allah. Donc il n'y a pas une salafia salat, salafia zakat, salafia saum, salafia tawakkul, salafia kada ou kada. Chaque adoration, tu en fais une nouvelle salafia. Un taqsim batil. Et la deuxième question que tu as posée par rapport à... C'était la politique, tu disais? Hein? Ah, ok.
Si c'est des moukhtadis,
est-ce qu'on doit les obéir aveuglément? Eh bien, ça, c'est le terme que tu as employé, de les suivre aveuglément. Sache que si tu es un salafi, ça, c'est interdit en islam. Parce que la salafia, elle interdit de suivre quiconque aveuglément. Et Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Et les ulama de tafsir, ils ont dit: quand Allah il dit ati'u Allah, ils ont mis il y a le verbe Allah, hein, devant Allah, il y a le verbe ati'u. Et quand Allah il dit ar-rasul, il y a devant ar-rasul le verbe ati'u. Et donc les ulama, ils ont dit ça, c'est parce que l'obéissance à Allah et l'obéissance au messager, elle est absolue, aveugle. Le seul que tu dois obéir aveuglément, c'est Allah et son messager. toute autre obéissance, sallallahu alayhi wa sallam, toute autre obéissance en dehors de celle d'Allah et du messager, elle est conditionnelle. Elle n'est pas absolue, puisqu'il dit « Wa ulil amri minkum » et ceux d'entre vous qui détiennent la gouvernance. Donc ça veut dire que tu dois obéir aux dirigeants à condition qu'ils ne t'ordonnent pas de désobéir à Allah et à son messager. Et donc c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit d'écouter et d'obéir, il dit « Ma lam yu'mar bi ma'siyah » tant qu'il n'a pas ordonné un péché. Et il dit aussi « La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq » il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur. Donc, ça c'est un fondement et un principe. Si Allah nous éprouve par un innovateur qu'il met au pouvoir sur nous, à ce moment-là, il sera de notre devoir de lui obéir et de l'écouter dans le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « Illa an taraw kufran bawahan fihi min Allahi burhan » excepté si vous voyez un coffre clair apparent au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah. Donc si le dirigeant dit ou fait quelque chose qui est un coffre clair au sujet duquel il n'y a aucune ambiguïté et que le fait de le remplacer par un croyant ne va pas ramener un mal plus grand que le mal de sa gouvernance, le mal que tu veux enlever, tu ne vas pas l'augmenter ou l'empirer, à ce moment-là tu le remplaces. Parce qu'il a fait un kufr bawah. Mais en dehors de ça, si ce n'est pas un kufr bawah, s'il a fait des péchés ou de l'injustice, tant que ça n'a pas dépassé la limite du kufr, eh bien à ce moment-là, tu n'as pas le droit de te rebeller contre lui et tu dois lui obéir dans le bien. Pas à tout, fais le ma'ruf. D'accord ? Et aussi, les ulama, ils clarifient donc ce principe-là pour nous faire comprendre. Même un imam ou un cheikh, on n'a pas le droit de l'écouter ou de l'obéir aveuglément. Même les imams des salafs, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, il a dit « إِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِي » Et l'imam Malik, il dit يعني, « كُلٌ يُصِيبُ وَيُخْطِئ إِلَّا صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ » Toute personne peut avoir raison, elle peut se tromper, excepté celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les imams des salafs ont confirmer ce principe. Donc, si regarde, on est ici au Canada. Le président, le nouveau premier ministre, je ne sais même pas son nom. Je sais que l'autre, c'était Justin Trudeau. Maintenant, je ne sais pas le nouveau, c'est qui. J'ai même pas suivi.
Carney.
Hein?
Carney,
bon. Est-ce qu'il est kafir ou non?
Non.
Hein? Non, je parle au frère qui m'a questionné. Il est kafir, subhanallah. Il n'est pas musulman. Est-ce qu'il a dit la ilaha? Est-ce qu'il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Il est kafir. Toute personne qui n'a pas déclaré la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est kafir. S'il n'est pas musulman, ça veut dire kafir. Kafir égale non musulman. Non musulman égale kafir. Et c'est ça. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. D'accord? Est-ce qu'on lui obéit? Hein? Il n'a pas à tout faire le ma'ruf. S'il nous ordonne de désobéir à Allah, on ne lui obéit pas. Mais lui, il n'est pas musulman. Donc, à la base, le kafir n'a pas de wilaya sur le musulman. Et on n'a pas le droit de voter pour un kafir. Ça, c'est quelque chose. Va dire au ikhwan. Va dire ça au ikhwan. Pourquoi vous votez pour des kuffars? Et vous dites que vous êtes des gens qui appelaient à la charia. Quelle charia, ça? C'est des laïcs. Ils ne croient même pas en Allah et vous votez pour eux. Et vous appelez les musulmans à voter pour des kuffars. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Ala kulli hal. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.
Petite question.
Ouais, vas-y.
C'est pour les frères qui ne sont pas encore mariés, tout ça, comme moi. Parce que moi, j'ai divorcé. Moi, j'ai divorcé, puis c'est important. Est-ce que c'est important de demander à une femme avant de la marier si elle suit Ahlul Sunnah? Parce que moi, j'ai des gros problèmes à cause de ça. Parce qu'il y a eu des traditions, il y a eu des choses bizarres. Puis je ne voulais pas que mon fils grandisse dans des trucs bizarres comme ça. Les trucs de tombe que vous dites et tout ça. Est-ce que c'est une question importante
avant
de se marier?
Oui, effectivement. Barakallahu fi subhan. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Si tu te maries avec une femme, évidemment qu'il faut poser des questions sur sa croyance, sur son manhaj, et de vérifier qu'elle a une bonne croyance et qu'elle accepte le Coran et qu'elle accepte la Sunna. Parce que sinon, tu risques de te, te retrouver dans une situation des fois très difficile avec une femme qui a des drôles de croyances, des pratiques étranges, des choses qui contredisent l'islam. Et si elle n'est pas ouverte à accepter les preuves de la révélation, puis d'accepter la vérité, eh bien, ça va te causer du trouble. D'accord ? Donc, essaie de trouver une femme, une sœur qui aime le Coran et la Sunna. Et la même chose pour les sœurs. Si vous allez demander quelqu'un, ou vous allez, quelqu'un va bien vous demander en mariage votre main, renseignez-vous à propos de la aqida de cette personne, son manhaj. Est-ce que c'est quelqu'un droit? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une bonne aqida? Sinon, vous risquez de vous retrouver avec des gens étranges qui vont vous faire votre takfir. Peut-être ils vont vous égorger pendant votre sommeil. Non, mais c'est vrai. Et il y a des fois des frères qui disent, moi je vais la convertir. Hein? C'est-à-dire, il y en a un parmi les salafs, il s'était marié avec une kharijiya. Il a dit, je vais la faire revenir à la sunna. Et puis quelques temps après, il est devenu parmi les khawarij lui-même. C'est elle qui l'a converti.
Elle est devenue la tête des
khawarij. Et non. Ibn Hattab, j'ai oublié son nom. En tout cas, à la kulli hal, tout ça pour dire... Faites attention avec qui vous mariez. Et le prophète Sansam a dit, faites fort les dates de din. Les dates de din, ça ne veut pas juste dire celle qui pratique la religion, mais celle qui est sur la bonne aqida. Aïcha, radiallahu anha, il y a une femme qui est venue lui poser une question une fois. Elle lui a dit, les femmes, elles doivent refaire les jours de jeûne qu'elle a manqué pendant le ramadan. Mais pourquoi elle ne doit pas refaire la salat qu'elle n'a pas faite pendant ces périodes de menstrues? Aïcha, qu'est-ce qu'elle lui a demandé? Elle lui a dit, « Ahharouriyatun anti ?» Al-harouriya, c'est les khawarij. Elle lui a dit, « Est-ce que tu es une harouriya ?» Parce que les khawarij, ils ordonnaient aux femmes de reprendre leurs prières manquées pendant leurs règles, pendant leur menstruation. Alors, elle, juste à partir d'une question, elle a posé, « Est-ce que tu es une kharijiya ou quoi ?» Donc, si Aïcha a le droit de demander la aqida d'une femme qui vient lui poser une question de fiqh, hein, est-ce que nous, on n'a pas le droit de demander le manhaj de la femme qui vient pour nous questionner à propos de, justement, qu'on vient questionner, on vient demander sa main en mariage? Est-ce qu'on ne doit pas demander un peu sur sa voix, sur qu'est-ce qu'elle suit, qui sont les chelours qu'elle écoute? Et ce n'est pas une condition qu'elle soit une talibat ilm, ou qu'elle étudie jour et nuit la religion, qu'elle veut devenir une savante. Non, mais l'important, que ce soit une fille pieuse, qui aime Allah et son messager, qui respecte les savants de l'islam, et quand tu lui mentionnes un hadith, ou une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou un verset, elle dit, « Sami'na wa ata'na ». Si tu as trouvé cette femme-là, alhamdoulilah. Wallahu ta'ala a'lam. Non.
Pour la croyance, pour Ashara, c'est clair.
Non.
Juste pour faire l'ibadat, je compte pas prendre pour le faire.
Bien sûr. Okay, alhamdulillah. Les fiqh, les ahkam al-fiqhiyya, ou les masaïl al-ijtihadiyya, ikhtalaf al-ulama fi hadi al-umour, ou al-muhim lil-muslim, an ya'khudh bid-dalil, alladhi huwa aqrab ila al-sawab. Donc, tu prends la position qui est la plus proche de la preuve. Toutefois, si tu n'es pas en mesure de déterminer par toi-même qu'est-ce qui est la preuve, parce que ton niveau n'est pas assez élevé dans la connaissance pour être capable de distinguer ce qui est correct de ce qui ne l'est pas, les ulama, ils disent, tu prends la position de celui qui est plus pieux à tes yeux et en lequel tu as le plus confiance parmi les savants de ton époque. Le fiqh, c'est le fiqh maliki. Il n'y a pas de problème. C'est juste que l'introduction, il y a l'aqida, l'ash'ariya dedans. Mais le fiqh, il est correct, inshallah. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas un madhab qui est 100% exact. Dans tous les madhab, il y a qu'est-ce qui est correct et il y a qu'est-ce qui est erroné. Et l'important, c'est de suivre qu'est-ce qui est plus proche de la preuve.
Et Abou Hassan Al-Ash'ari, il est décidé sur...
C'est ça. Vous avez parlé du 40 oui, Al-Ash'ari, il a eu trois étapes. Au début, 40 ans, il a été Mu'taziri. Après, il a eu une période intermédiaire dans laquelle il a suivi Ibn Kullab. Donc, c'est la période dans laquelle il a établi la voie de Ilm al-Kalam. Et c'est dans cette position, c'est cette position-là que les gens aujourd'hui suivent lorsqu'ils se disent Ash'ari. Puis, il y a eu sa dernière position avant sa mort, qui est la position d'Ahl al-Sunnah. Parce qu'il est, il est revenu à la fin de sa vie à la position d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a et il s'est repenti. Hein? Et il a écrit le livre Al-Ibana, fi usul al-Diyana, et dedans, il confirme qu'il revient à la aqida de l'imam Ahmad. Donc, à la fin, il est revenu à la position d'Ahl al-Sunnah. Malgré ça, les ulama ils disent on n'a pas le droit de se dire Ash'ari à cause de ce que ça implique de fausseté. Puisque ceux qui le disent, ceux qui se disent Ash'ari, ils ne veulent pas dire sa dernière position. Ils parlent de la position qu'il a eue, qui était la position intermédiaire après avoir quitté la voie du Mu'tazila. Et cette voie-là, c'est une voie innovée parce que c'est la voie des gens de Kalam, comme la voie de Al-Maturidi Abu Mansour. Wallahu ta'ala alam, subhanakallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
جزاك الله خيرا
نفعك الله نفع الله